émission consacrée à Léo Ferré par Martin Bénet et Mathieu Ferré.
C'est d'apprendre à rien faire. Vous savez, quand vous sentez sur une scène, il faut vraiment avoir. Moi, je me rends plus compte maintenant. Mais vous êtes sous des projecteurs, et puis il y a des gens qui vous regardent. Enfin, vous êtes seul. Et alors, vous bougez. Parce qu'on bouge, parce qu'on est mal. Donc, le plus difficile, c'est de rien, pas bouger. Et ça, ça s'apprend année après année. Quoi. C'est difficile.
Mathieu Ferré, bonjour.
Bonjour.
Pour cette dernière émission consacrée à votre père, vous avez choisi de donner la parole à ses interprètes, j'ai envie de dire innombrables, de l'immédiate après-guerre jusqu'à nos jours.
Oui, ben c'est quelque chose qui est important aussi dans son travail, les interprètes. Et donc,
ça a aidé à le faire connaître.
Au
début de sa carrière, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a choisi de centrer l'émission, parce que bien sûr, il y aurait de quoi faire plusieurs émissions rien que sur ce sujet. Alors aujourd'hui, nous entendrons le témoignage de Jacques Douai, de Cora Vauquer, Juliette Gréco, ainsi que la voix de Catherine Sauvage. Et je voudrais ici rendre hommage à trois grandes interprètes de Léo Ferré qui nous ont quittés, Michel Arnaud, Barbara et Germaine Montero. Pour commencer cette évocation des débuts de Léo, je vous propose d'écouter une de ses premières interprètes en 1948, René Lebas.
En balance, c'est l'hirondelle qui fait le printemps. En Amérique ou bien en France, l'amour, ça peut se faire en tournant. Le bon Dieu fumard dans son coin, c'est ce qu'on nomme le destin. Pourtant, les fleurs sont si jolies qu'on en ferait des folies. Tant que peut tourner la vie. Les vôtres. Tu peux tourner, moi je m'en balance, les âmes se fondent au printemps. D'un bras lilas, d'une romance, le bonheur ça peut se faire en tournant. Il y a quelques fois le désespoir qu'on rencontre dans l'espoir. Pourtant, les filles sont plus jolies que les gars font des folies. Moi j'ai tout le temps, il y a quelquefois des hasards qu'on l'air de nous avoir pourtant. fond. Tu fais bien des manières et même tu exagères. Et c'est dans la marche arrière. Vas-y la terre, moi, je suis pas pressée.
Bonjour Jacques Douai.
Bonjour.
Vous êtes l'interprète bien connu de très nombreuses chansons qui vont du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et vous êtes également un contemporain de Léo Ferré. Vous l'avez connu assez tôt. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous l'avez rencontré. Vous situez ça à quelle époque ?
47. Vraiment le tout début. Enfin, le tout début, non, parce que le quartier a débuté en 45. Mais moi, j'étais à Montmartre. J'ai débuté à Montmartre, en face du Moulin de la Galette, dans un petit restaurant sympathique, et où je chantais à la fin du repas. Il y avait 25 ouverts. Et j'ai appris le métier comme ça. Ça a duré 2 ans, tous les soirs. Et puis un beau jour, j'ai voulu aller voir ailleurs, ce qui se faisait ailleurs. Et comme il y avait la Rose Rouge, qui débutait en 47-48 aussi, qui était rue de la Harpe. Je suis venu vers Saint-Germain-des-Prés, et là, j'ai trouvé un public. Pas un public de noctambule, mais un public qui était à la recherche de quelque chose qui n'existait pas encore, ou qui était en train de naître. Et puis, j'y chantais 2 fois par semaine. Alors, dans ce quartier qui était en train de se chercher, mais où il y avait des lieux de rencontre, des lieux, des repères extraordinaires, où on faisait pas n'importe quoi, où on triait la clientèle à travers les chanteurs et les chansons. J'ai cherché dans le voisinage, et c'est comme ça que je... Pierre Latour, il chantait lui-même, il écrivait, et il était surtout comédien. Je le croise à minuit, à la Reine Blanche, qui disait, je m'en sors pas, j'ai fait 12 cabarets en 2 jours à Montparnasse, en dehors du Collège Jean, mais comme le Collège Jean est occupé par Francis Lemarque, je ne vais pas aller lui faire de la concurrence. Et il me dit, mais écoute, il y a un endroit là, tu devrais y aller, c'est rue du Pré-au-Clair, ça s'appelle le Côte-Libette, et c'est Francis Claude qui présente et qui anime. Dans le métier, j'ai laissé mon imperméable au vestiaire, j'ai dégainé la guitare, et je suis arrivé comme ça, il était une heure et quart, et on me regarde, on dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là ? Je dis, bah, écoutez, est-ce que vous voulez m'entendre ? Et Francis Claude me dit, bah oui, pourquoi pas, qu'est-ce que tu chantes ? Et je commence à chanter, mais il y avait Léo Ferré, qui était là déjà depuis plusieurs mois, il se connaissait bien avec Francis Claude. Et je chante, et Francis Claude me dit, eh bien, écoutez, je vous engage dans mon émission hebdomadaire. À l'époque, il n'y avait pas de disque, il n'y avait pas d'enregistrement, donc je n'avais pas de matériel pour me faire entendre autrement qu'en chantant moi-même. Et le dimanche suivant, je vais à l'émission, et ça a duré 3 ans. Et Léo avait pour mission de chanter au moins une chanson nouvelle chaque semaine. C'est là qu'il a fait l'île Saint-Louis, le bateau espagnol, des choses comme ça. Ça a été une période de création extraordinaire. Il y avait une ambiance, on était motivés. On avait quelqu'un qui nous écoutait. Francis Claude était un type très attentif et très sensible aussi, astucieux, plein d'humour, enfin, capable d'animer une soirée à lui tout seul. Et cette aventure a duré 3 ans. Et j'ai eu le temps de faire la connaissance de Léo.
Elle coule mystérieusement la rivière des amants, endormie dans leur lit blanc. Elle vogue majestueusement la frégate de leurs yeux, vers des pays trop heureux, et moi je les regarde mourir de bonheur. rêve de la belle enfant, les bras, les mains de son amant font les rivages merveilleux du fleuve doux qui meurt dedans leur lit tout blanc. Il coule mystérieusement le grand fleuve des amants qui sont morts dans leur lit blanc. Il vogue majestueusement le navire de leurs yeux vers des pays trop heureux. Et moi je les regarde. Les cheveux de la belle enfant, ses larmes comme des affluents font le grand fleuve des amants qui descendent dans leur lit tout blanc pour l'éternité.
Il a eu une période, malgré ça, où il n'était pas encore admis. On disait qu'il fallait un dictionnaire pour écouter ses chansons. Quand Jean-Jacques Léaud n'était pas admis, c'était pas Léo lui-même, c'était son type de caractère dans les chansons. Par exemple, mon général des souvenances, ça a été interdit, pratiquement. Et alors, il avait tellement de chansons, j'allais pas dire revendicatives, mais des chansons qui voulaient dire quelque chose, quoi. Ça remettait beaucoup de choses en question, et c'est ce qui me plaisait en lui. Hein, la meilleure, c'était La Mafia. Et il en avait des tas d'autres. Et puis il y avait un autre d'ailleurs qui disait. Je ne me rappelle pas les paroles. Ce qui me plaisait dans lui, c'est qu'il y avait un côté lyrique dans ses chansons. Et comme moi, j'avais chanté Bach et puis Ravel ou d'autres musiciens, j'étais toujours à la recherche de la musicalité et de la qualité sonore. Et Léo avait un registre de voix extraordinaire. Il avait des prouesses vocales que même un chanteur professionnel ne pouvait pas atteindre. Je ne sais pas comment il faisait d'ailleurs, parce que jamais je l'ai croisé en situation d'extinction de voix. Et pourtant, il malmenait sa voix quelquefois, et dans des endroits où il y avait beaucoup de fumée. Alors, il était le miracle permanent pour moi. Moi qui m'étais... J'avais mis 10 ans avant de me chanter en public. J'avais étudié, j'étais préoccupé de problèmes respiratoires, de prononciation. Vous savez, le chant, c'est rendre sonore toutes les syllabes d'un mot. Y compris les consonnes même. Et j'étais en admiration devant Léo. Il se mettait au piano et puis c'était l'enchantement, quoi. Mais avec des chansons que je ne pouvais pas chanter toujours, parce que lui, il était le personnage qui collait avec les chansons. Alors j'ai choisi dans son répertoire, d'abord dans ce qu'il m'a confié, des choses qui étaient le plus romantiques, qui étaient correspondant à ma sensibilité. Les temps chimériques, par exemple, hein, et puis les tatos de la chambre, c'était... Encore la chambre, les paroles ne sont pas de lui, mais la musique colle parfaitement avec le texte. Et puis après, mon cheval de bataille, c'était Le Bateau espagnol, et je la chante encore maintenant. Et on me la demande encore. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir chanté probablement pas plus de 10 ou 15 chansons de lui, alors qu'il a un répertoire tellement étendu et tellement extraordinaire.
Nos plus beaux souvenirs fleurissent sur l'étang dans le lointain château d'une lointaine Espagne. Ils nous disent le temps perdu, oh ma compagne, et ce blond nénuphar, c'est ton cœur de 20 ans. Un jour nous nous embarquerons sur l'étang de nos souvenirs et referons pour le plaisir le voyage doux de la vie.
Un jour, nous nous embarquerons, mon doux Pierrot, ma grande amie, pour ne plus jamais revenir. Nos mauvais souvenirs se noieront dans les temps de ce lointain château d'une lointaine Espagne. Et nous ne garderons pour nous, ô ma compagne, que ce blanc nénuphar et ton cœur de 20 ans. Un jour, nous nous embarquerons sur l'étang de nos souvenirs et referons pour le plaisir le voyage doux de la vie. Un jour, nous nous embarquerons, mon doux Pierrot, ma grande amie, pour ne plus jamais revenir. Alors, tout sera lumineux, mon ami.
Bonjour Cora Vauquer.
Bonjour Martin.
Vous avez chanté de nombreux auteurs, et notamment Léo Ferré. Parlez-nous un petit peu de Léo, de son répertoire, des chansons que vous avez voulu chanter de lui.
J'ai chanté Léo, pas assez à mon gré, mais il y a beaucoup de chansons. J'aurais voulu tout chanter, c'est vrai. Il nous a apporté tout un monde, et sa musique. Vous savez, quelquefois je regarde des chansons d'une certaine époque que j'ai chantées, et tout d'un coup je me dis, oh, c'est démodé, et je ne sais pas pourquoi. Et Léo, ça ne bouge pas. C'est une vraie musique qui n'a pas d'époque, qui n'a pas de temps, qui, je pense, doit durer indéfiniment.
Comment est-ce que vous choisissez vos chansons parmi toutes celles qu'a écrites Léo Ferré ?
J'ai choisi par coup... Non, par possibilité, parce qu'il y a peu de chansons que je peux chanter. Je manque d'hormones mâles, voyez-vous ? Alors, ça me gêne, mais j'aurais tout voulu chanter. Et Catherine Sauvage, par exemple, ça a été merveilleux. Elle pouvait, elle. Moi, pas. J'ai pas de possibilité. C'est vocal en même temps. Tandis que dans ma tête, ça me paraît tout à fait épatant.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Léo Ferré ?
Oh là là ! Il est arrivé à Paris, je crois que... Oui, je suis dans les premières personnes qu'il l'a vu et que je l'ai connu tout à fait à son arrivée à Paris. Il m'avait donné la chambre et le scaphandrier. Et puis ensuite, il y a eu la vie d'artiste, enfin des choses qui étaient susceptibles plus facilement d'entrer dans mes possibilités.
Voilà, quand vous disiez qu'il vous donnait des chansons, comment ça se passait ? Vous le rencontriez chez lui, il venait chez vous, il voulait jouer, il vous donnait la partition, un peu plus dans le détail, comment ça se passait concrètement ?
C'est-à-dire que j'ai eu cette chance de le connaître tout à fait à ses débuts, même avant qu'il ne chante. Donc, on s'est rencontrés, il m'a donné des chansons, et puis après, j'entendais des chansons, j'ai dit, Léo, cette chanson, je la voudrais bien. Et puis, il a commencé à chanter, et ça a été tellement extraordinaire, parce que j'ai entendu dire, et j'ai lu, lui, il a une voix. Alors, je voudrais bien qu'il vienne chanter maintenant, on entendrait comme il a une belle voix par rapport à ce que j'entends de belle heure lamentable. Ah non, c'était une vraie voix, bonne, claire, il disait ce qu'il avait à dire, et bon, c'était une voix, mais pas une voix d'opéra, une voix de chanteur, justement, qui exprime avec tout son corps, avec tout ce qu'il a à dire, et avec énergie, et avec amour. Enfin, il disait tout ce qui lui passait par la tête, en plus. En vrac, drôle, cocasse, violent...
J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé et pour courir le guilledou près de la Seine, souvent on les flanque et l'Apollinaire qui s'en vient musarder dans nos misères. Ah, c'est bête, on voulait s'amuser. Mais c'est raté, on était trop fauchés.
Regardez-les tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs tablettes. Regardez-les tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés ont de beaux rêves quand même. Ils parlent latin et n'ont plus faim à Saint-Germain-des-Prés. Vous qui passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine. Regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tabac. C'est belle, elle est pensée, saluons-les à Saint-Germain-des-Prés.
Retrouvons Léo Ferré lors du gala de Paris Inter le 17 mai 1955.
Je trouve que Catherine Sauvage a été la première qui a osé chanter mes chansons et osé chanter la plupart de mes chansons. Car je me souviens très bien, nous chantions dans un cabaret de Saint-Germain-des-Prés, dans le même cabaret, tous les deux, et chaque soir, Madeleine lui apportait des chansons que j'avais écrites, enfin des tas de choses, des chansons que j'avais à la maison. Elle les copiait. Car elle s'est elle-même copié la musique, elle transposait même, ce qui est rare. Elle connaît le solfège. Et elle nous l'a rapporté le lendemain. Et peu à peu, petit à petit, elle s'est mise à chanter le Ferré. Et après, elle a enregistré des disques, et ça qui était très important. Et comme ces disques ont été techniquement bien faits, elle a eu l'audience beaucoup plus grande, elle a fait connaître toutes mes chansons. Je pense qu'elle a la voix qu'il faut pour la chanson, pour le micro, et la diction, et l'intelligence du texte. Elle comprend ce qu'elle chante, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres.
Il est facile maintenant que tout le monde chante les chansons de Léo Ferré, de dire Léo Ferré est un compositeur extraordinaire. Mais au début, je crois que ça n'était pas si facile. D'abord, ses chansons sont souvent arides, et elles sont devenues populaires, surtout grâce à vous, Catherine Sauvage. Comment le public a-t-il réagi au début?
Eh bien, c'est pas tellement du public que venait la difficulté, parce que au début, Léo et moi, on passait donc à Saint-Germain. Alors à Saint-Germain, le public était absolument d'accord avec les chansons de Léo Ferré. Au contraire, ils aimaient beaucoup ça, ils étaient ravis. La difficulté venait beaucoup plus des éditeurs, des directeurs de salles, qui ne voulaient absolument pas entendre des chansons de Ferré dans les cabarets des Champs-Élysées ou enfin au Music Hall. C'était surtout là que venait la difficulté.
Et à partir de quel moment cette difficulté a-t-elle été par vous vaincue?
Eh bien, il a suffi d'une seule chanson pour me faire passer la scène.
Oui.
Et en même temps, pour me donner un certain nom, puisqu'en 3 mois, le disque de Paris Canaille a été pratiquement dans toute la France, dans toutes les machines à sous, et tout le monde l'a su par cœur.
Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. De sordine, de sous-combine, et ta vie qu'on rata. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait de petits efforts. Et si la mafia radie, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tartines et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine. Et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça indispose, et c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Mais si la main... mafia se ramène. T'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes, c'est la bohème. Et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traîner en tes rengaines le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui te gênent. Et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia. Avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, traîné par le chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur la fiche à Cocatrix, à Cocatrix.
À ses débuts, on voyait beaucoup moins sa silhouette, étant donné qu'il était au piano. Donc ce qu'on voyait, c'était ses lunettes cerclées de fer et ses petits yeux, comme ça, hein, et puis son sourire sardonique. Et puis c'était surtout ça, parce qu'on le voyait derrière son piano au début. On voyait que sa tête. On écoutait sa voix et on voyait sa tête, c'est tout. Je devais avoir 20 ans. Et dans un cabaret de la rue du Pré-au-Clair qui s'appelait le Quadlibet et que tenait Francis Claude, je suis passé dans le même programme que Léo. C'était la première fois que je voyais Léo. Pour moi, Léo, ça a tout de suite représenté... Bon, moi, je suis typiquement une interprète, j'ai jamais rien écrit, et j'ai toujours été attiré par les beaux textes. Et tout ce qu'écrivait Léo, ça me semblait être du sur-mesure pour moi au début. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, ça me semblait l'idéal. Alors, j'ai tout de suite demandé à Léo si je pouvais chanter, bon, quelques chansons. J'ai commencé par Monsieur William, qui était la première que je chantais lui. Et puis après, j'en ai chanté de plus en plus, si bien là, c'était en 49. Alors après, on a fait des tas de cabarets où on était dans le même programme. On a fait un truc, je crois que c'était le caveau de la Huchette ou quelque chose comme ça. Après, on est resté très longtemps ensemble au Trois Maillets. Et là, au Trois Maillets, alors on a commencé à beaucoup mieux se connaître et j'ai commencé à chanter beaucoup plus de chansons de lui. Puis on est resté aussi à l'Arlequin très longtemps ensemble. Alors à l'Arlequin, là, ça devenait compliqué parce que là, j'avais déjà un gros succès qui était Paris Canaille. Alors on se mettait d'accord. On disait, bon, alors tu me donnes celle-là, je te reprends celle-là. Enfin, on se faisait comme ça des tas de micmacs. Mais alors Paris Canaille, on voulait pas céder ni l'un ni l'autre parce qu'évidemment, c'était celle qui marchait le mieux. Et alors lui débutait son tour avec Paris Canaille et moi je finissais le mien avec Paris Canaille. Les clients avaient deux versions de Paris Canaille dans la même soirée, mais ça on n'a pas cédé pour celle-là, on n'a pas cédé.
Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants, ta cordéon, ça fait pas de rance, mais c'est si bon, t'es gigolo, te déshabille sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es de la courroie de verre d'envers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames sont une raison à ce fond bigame, mais c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage, jeu de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah la une, ah la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux, la toute dernière des éditions. T'es en galère, mais c'est si bon. Ah la l'air, ah la rien, t'es un gangster à la vie de pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon.
Cora Vauquer, parlons de Pauvre Rudebeuf que Léo Ferré a composé en 1955.
C'est toute une histoire, Rudebeuf, parce que Léo avait pris des poèmes de Rudebeuf, et moi je connaissais Rudebeuf parce que j'avais passé un concours au conservatoire. On m'a demandé, pouvez-vous me parler de Rudebeuf? J'ai dit non, un vilain à la rigueur, mais Rudebeuf était avant. Après je me suis rencardée, et quand Léo a pris les poèmes de Rudebeuf, c'était merveilleux ce qu'il avait réussi à ramasser en plusieurs poèmes, et j'enregistre Pauvre Rudebeuf. On l'interdit. On interdit la chanson parce qu'à ce moment-là, il y avait des interdits. Pourquoi? Parce qu'il y avait les droits au cul, qu'en musulmane, on n'a pas le droit de dire ça. Très embêté, Léo n'était pas là. J'ai dit, ça m'embête, j'y tiens beaucoup. Et puisque c'est une chanson quand même d'amour, que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu tant aimé, ils ont été trop bien. Bon, je mets droit au cœur comme bisvente à la place de droit au cul qui avait fait interdire la chanson. Alors j'ai reçu un télégramme de Léo qui me dit, ma pauvre chérie, si tu confonds les deux, alors ça devient grave. Bon, alors on l'a laissé quand même comme ça parce que grâce à ça, ça a pu passer. Mais alors après, ça a été chanté par la chanteuse américaine là. Et droit au cul, ça passe ça. Très bien. Ce
sont mes amis devenus que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis que vingt importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a dû donner le roi de gloire et pauvre rente. Le vent me vient, le vent m'avance. L'amour est mort. Le mal ne s'est pas su venir de ce qui m'avait à venir, mais d'avenu.
Et Jacques Douai, est-ce qu'on peut parler un peu du rapport que Léo Ferré entretenait avec ses interprètes, divers d'ailleurs?
Il y a eu deux périodes. Il y a eu cette période où on venait le voir et où il me faisait entendre ses dernières chansons. Et on disait, bah, écoute, oui, moi j'aimerais bien interpréter cette chanson. Mais lui n'avait pas l'occasion de les chanter. Donc le rapport entre l'interprète et l'auteur était différent, en ce sens que l'auteur avait besoin d'un interprète pour se faire entendre. Et alors à partir de 55-56, il devient maître du jeu. Et lui, alors, s'impose. Et pour chanter derrière lui, c'est pratiquement le gros risque, parce qu'il interprète, il donne un tel caractère à ses chansons que tout interprète qui vient derrière, il a l'air pâle. Alors moi je me suis modestement contenté des chansons que j'avais aimées en lui, mais que lui ne chantait pas lui-même, parce que c'est une autre ambiance. À partir du moment où il chante sur scène dans une grande salle, il ne reviendra à des chansons comme Le fleuve aux amants ou des choses comme ça, qui sont des chansons confidentielles. Il n'y reviendra que 10 ou 15 ans plus tard. Or, moi, j'ai fait ma réputation avec les chansons de Léo, mais sur des choses intimistes.
Il y a quand même une exception dans les grandes interprètes de la deuxième moitié des années 50 qui ont chanté du Ferré. Enfin, il y a même plusieurs exceptions. Il y a quand même Germaine Montero qui a enregistré plusieurs chansons dans les années 55, 56, 57. Et puis il y a Juliette Gréco avec Jolie Môme quand même en 60.
Mais oui, mais ça fait partie de l'évolution d'un titre de chanson qui est interprétable par plusieurs, mais à condition qu'il y ait la dimension. Or, vous citez des exemples comme Montero ou Gréco, je crois que c'est pour Léo, c'est la consécration totale, quoi. Que d'autres aient osé les chanter sans limiter, en y apportant une note particulière.
Je ne sais plus qui est le patron, quand la raison n'a plus raison, quand on raterait la fin du monde et qu'on vendrait l'éternité pour cet été. Éternelle seconde, quand on raterait la fin du monde, quand le diable ne nous voit pâlir et qu'il n'y a plus moyen de dessiner la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Quand le diable nous voit pâlir, quand la machine a démarré et qu'on ne sait plus bien où l'on est et qu'on attend ce qui va se passer.
Gréco, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous dans quelles circonstances vous avez été amené à interpréter vos premières chansons de Léo Ferré et comment vous l'avez rencontré.
J'ai rencontré Léo Ferré, c'était pas rue Saint-Benoît, mais c'était une boîte en sous-sol qui était dans le quartier Saint-Germain. J'avais d'ailleurs une photo de lui et de moi à cette époque, mais je la cherche partout, on a dû encore me la piquer. Voilà, mais cela dit, j'ai pas besoin de photos pour me rappeler de lui. Il est complètement dans ma vie. Il est d'abord dans ma bouche chaque fois que je chante, et il est donc dans mon corps, il est donc dans mon cœur, il est donc dans ma tête, dans ma mémoire. Et puis je considère que c'est un être vivant. Donc je ne pleure pas. J'ai pas de regrets, je n'ai qu'une amitié, un respect et une admiration intacte.
Comment est-ce que vous avez choisi vos chansons à ce moment-là? Est-ce que c'est lui qui vous les donnait? Comment ça se passait?
Ben, ça s'est passé, je suis allé chez lui, il habitait du côté de Gouvion-Saint-Cyr. Je suis arrivé dans une maison de biscornue, drôle comme toute. Je suis entré par un couloir, il y avait une porte ouverte sur une chambre. Et mes yeux se sont arrêtés forcément parce que sur un grand lit, il y avait un chien très grand qui était couché. Et puis sur l'autre lit, il y avait un autre chien très grand qui était couché. Et puis je suis entré dans une pièce dans laquelle il y avait le piano, un buste de Beethoven et un singe qui était habillé en marin. Voilà. Et Léo, bien sûr. sur Léo, magnifique, beau, séduisant, somptueux, comme ça, royal, qui était à son piano, et puis il m'a joué plusieurs choses, et puis tout d'un coup il m'a dit, je viens de terminer un truc qui s'appelle Joli Môme, je vais te le jouer. Parce que lui me tutoyait, mais moi je le voyais. Et voilà, je m'amusais avec le singe, parce que j'étais vachement distraite, parce que le singe me fascinait. Mais je ne suis pas restée distraite longtemps. Et puis voilà, et puis j'ai eu Joli Môme. Joli Môme qui ne m'a pas quitté depuis ce jour-là. C'est comme ça, deux ou trois drapeaux que je mets dans ma valise, que je transporte autour du monde.
Qu'est-ce que vous ressentez en chantant cette chanson ?
Je m'amuse. Je m'amuse et bien que ce soit une chanson misogyne, je fais en sorte qu'elle ne le soit pas.
Il l'a écrite pour vous ?
Non, certainement pas. Il l'a écrite pour lui, je présume. Mais comme tout ce qu'il a fait, il l'a écrit pour lui, ce qui est normal.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, ah, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de paston qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. Qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une souris au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
J'aimerais savoir, vers la fin des années 60, les interprètes restaient sur son répertoire plus ancien, on va dire.
Mais je pense que...
Sauf peut-être avec l'exception avec le temps, qui est une chose qui est écrite en 71.
S'il m'avait offert avec le temps, je l'aurais chanté tout de suite. Tout de suite. Mais je pense que Léo était devenu, à cette époque-là, tellement grand qu'il nous a suffi, quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas jugé opportun de prendre ces chansons-là, parce que ce qu'il faisait me satisfait totalement. C'était devenu un tout, Léo. C'était immense. C'était immense. Donc, il n'avait plus besoin d'interprète, je crois. C'est l'impression que j'ai. Hein. Il se suffisait largement à lui-même. Largement. Donc, au début, mais c'est bien d'avoir des interprètes, c'était le même coup avec Brel. Hein. Il n'y a que moi qui ai chanté Brel. parce que j'ai un culot de commissaire et que surtout j'adorais ça, quoi. J'avais envie de le chanter. Mais ça a été la même chose pour Brel. Tout d'un coup, c'est on ne peut faire qu'autre chose, mais pas mieux. Il s'est mis à écrire uniquement pour lui. Pour lui, on le sent bien.
Je suis né ce printemps dans une île d'amour, avec dans mes poumons tout un banc de violettes. J'avais pour me parler l'ancienne girouette, j'avais pour pleurer des nuages. Je suis né ce printemps dans une île d'amour. Lys au mains des suppliciés pour leur dernier sommeil. C'était moi la berceuse sur les tringles du ciel. Quand l'âme est voyageuse, les pendules le matin, ça fait un bruit glacé. J'ai vu la corde lisse au mains des suppliciés. Les ailes des moulins, on me force à gonfler les voiles de naguère. Je suis le vent maudit qu'on a mis aux galères. Je suis un vieux bagnard et vous n'en savez rien. On me force à tourner les ailes des moulins. Avec moi et laissez vos maisons, et dans l'azur du bleu, nous ferons escale, nous soufflerons sur Dieu, sur ses décimales. Je vous donne ma voix et puis tous mes violons. Vous savez qui je suis maintenant.
Anne Guétan, une interprète belge qui a enregistré en 1994 « Vous savez qui je suis maintenant ?»
Oui, « Vous savez qui je suis maintenant ?» C'est la dernière chanson que mon père a écrite et on l'a donnée à Anne pour la créer parce qu'on l'aime beaucoup. Et c'est peut-être avec cette chanson, mais vous savez, peut-être que les gens savent aujourd'hui, grâce à ces 5 émissions, on leur a un peu raconté des choses et qu'ils savent un peu plus qui est Léo Ferré aujourd'hui.
C'est une belle conclusion en tout cas.
Oui.
Parlons un peu de ces interprètes actuels, de la façon dont l'œuvre de Léo Ferré est transmise par les chanteurs d'aujourd'hui.
Et je trouve que il y en a beaucoup de toute façon et c'est à mon avis une porte qui s'ouvre à un public qui autrement peut-être ne nous rencontrerait pas. Donc je remercie les interprètes de faire quelque part les porte-paroles de son œuvre.
Mathieu Ferré, comme dans chaque émission de cette série, vous nous offrez aujourd'hui une chanson inédite de votre père.
Oui, aujourd'hui, L'homme lyrique. Et c'est un texte que mon père a mis en musique en 92, Mais le texte vient de Poète voix pied de 56. Et c'est Francis Lalanne qui va nous la chanter. Et merci Francis. Voilà.
L'homme lyrique. Homme saint par 10 fois, devant les cathédrales, les pages de ma loi se colorent de roux. Ton ventre armorié au cuivre des cymbales battra le feu sacré en tirant quelques coups. Homme lyrique, homme qui pense, homme qui sue, homme qui n'est plus homme et qui ne le sait pas. Gamète transhumant vers des mers sans issue, regarde le printemps qui crève d'Hosanna. Égorgé de saisons nouvelles, de matures, va-t'en violer la voile impudique et dressant ses rêves au soleil de ma littérature. Et l'homme, je t'accuse, en me divertissant, tu passes comme l'or au crible des combines. Transval pensant Rousseau qui tremble de beauté, homme taylorisé, l'aiguille se débine, le temps marque des points, vive la liberté. Tu vois Ève peinant ses ferveurs menstruelles, écoulant tant de suc vers les limbes de plomb, les reins assassinés mourantes aux aquarelles, dont le rouge se fane en rêve de lino. Que la vérité blesse enfin ton hébétude, Adam irréductible à la pomme d'api, le fruit sanguinolent vaincra ta solitude. Les limbes n'auront rien cette fois, mon ami. Drame 9 fois compté aux clepsydres lointaines, l'ovaire grandissant est mûr pour le football. Tu as le coup de rein facile avec la graine, semeur invétéré qui joue au grand guignol. Tu te raides languissant ton sourire tragique sur les états civils de quelques lupanards, passant ombré de Dieu, monstre de mécanique, lyre vibrant de chair sur corde de bazar. Les vers que je t'immole aujourd'hui à la forge, des alphabets rougis sur ma peau de chagrin, forment 1000 drapeaux que mon âme dégorge, famélique passant au libraire du coin. Fauche donc mon bouquin et tranche-lui la gorge.
Spécial Léo Ferré, proposé par Martin Penet et Mathieu Ferré. Cette semaine, les premiers interprètes de Léo, en compagnie de Jacques Douai, Cora Vauquer et Juliette Gréco. Nous avons aussi entendu la voix de Catherine Sauvage. Merci à Florence D'Artois et Anne de Biran pour les archives de l'INA. Mixage Christian Fontaine et Philippe Thibault. Réalisation Annie Roger.
Voilà, ce magazine de la chanson était signé Martin Penney. Vous écoutez France Musique Midi, le journal Olivier Mirguet.
Bonjour, l'enquête sur...